Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Oui, c'est la rentrée Didier.
Eh oui, voilà, j'ai mis
notre
une petite cartable,
rentrée,
tout ça.
La rentrée d'Asialogie.
Et voilà.
Donc aujourd'hui, le 11 septembre. On n'est pas en retard.
Non, bah écoute.
On est très heureux, chères auditrices et auditeurs, de vous retrouver pour notre troisième saison.
Et voilà, trois.
Troisième saison et le premier épisode de cette troisième saison qui sera consacré à un grand sinologue français et écrivain voyageur, Victor Segalen, à la vie bien inspirante, je trouve.
Clairement.
Qui buvait du thé dans
aussi
sa chambre de porcelaine. Et pour rester dans l'ambiance, bah oui, Didier, tu vas nous parler du thé, justement.
Justement, ce sera
justement.
Le thé. Et effectivement. Alors, d'abord, revenons à notre premier sujet. Pourquoi avoir choisi de nous parler tout simplement de Victor Segalen?
Victor Segalen, je l'aime beaucoup. Voilà, là j'avoue, c'est un peu subjectif le choix.
Écoute. Hein,
mais vous allez comprendre... mon intérêt.
Ok.
Alors, Victor Segalen, c'est un intellectuel du début du XXe siècle.
Oui.
Donc, des 1901. Mm-hmm. Bien trop peu connu, à mon goût.
Oui.
Donc, c'était un médecin, un écrivain, un poète, un explorateur, sinologue et ethnographe. Tout ça.
Ok.
Et j'ai donc voulu partager avec vous, chères auditrices et auditeurs, mon admiration pour cet homme incroyable.
Ouais.
Alors, son œuvre littéraire est profondément marquée par ses voyages avec la découverte de civilisations différentes, ça m'a vraiment passionnée, et aussi sa réflexion très personnelle et sa confrontation avec celui qu'il appelle l'autre, enfin celui, celle qu'il appelle l'autre.
Oui.
Et ça m'a vraiment touchée et fait réfléchir, et je dirais même peut-être qu'il a changé ma vie, Victor Segalen.
Ah oui, tout de même.
Ah oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée.
D'accord.
Et qui a inspiré bien
oui,
bien
pas que toi.
Pas que moi.
D'accord.
Heureusement pour lui d'ailleurs.
Ok.
Voilà, donc Victor Segalen refusait l'exotisme superficiel pour proposer une approche plus profonde et philosophique du divers, qui est un autre de ses concepts.
Mmh.
Et sa pensée était très moderne. C'était début du 20e.
Oui.
Et il nous influence toujours, sans qu'on le sache, en fait, Didier.
D'accord.
Voilà. Et je trouve que beaucoup d'hommes politiques devraient s'intéresser à sa pensée anticolonialiste originale.
Eh bien, quel programme !
Alors,
qui était donc finalement déjà l'homme, Victor Segalen ?
Victor, il est né le 14 janvier. Le 14 janvier 1878 à Brest, dans une famille bourgeoise catholique et cultivée et aimante.
Oui, ça aide.
Et ça aide beaucoup. Et il est mort le 21 mai 1919 à Huelgoat, en Bretagne.
Magnifique forêt.
Oui, exactement. Et dans la forêt, justement, il
D'accord.
est mort.
Ah,
voilà. Là, oui. Et il avait seulement 41 ans et une vie déjà bien remplie. Alors, c'était un très bon élève, passionné par le latin, le grec, la littérature, mais aussi par les sciences. Il a étudié à l'école de santé navale de Bordeaux, qui formait les médecins pour la marine coloniale française.
Mmh.
Et il est devenu docteur en médecine en 1902. Alors, c'est dans cette formation qu'il va développer un goût pour le voyage et les cultures extra-européennes.
Mmh.
Mais il va acquérir aussi une grande rigueur scientifique. C'est pas incompatible, tout ça.
Ouais.
Et son premier voyage, ça a été la Polynésie. On imagine, aller en Polynésie à cette époque.
Je suppose, oui.
C'est déjà un très long voyage aujourd'hui. Et ça l'était encore bien plus, évidemment.
D'autant plus, oui.
Entre 1903 et 1905.
Mmh.
Voilà, il avait été affecté là-bas et surtout à Tahiti.
Oui.
Voilà, et ce premier séjour au bout du monde va bouleverser sa vision du monde, justement, et aussi la nôtre. Alors, on peut dire de lui qu'il est un précurseur de la pensée anticolonialiste pour son époque, qui était une époque très colonialiste.
Oui, quand même, cette époque-là, c'est clair. Bon, qu'est-ce qui va déclencher son œuvre, en fait ? Pourquoi va-t-il se démarquer de ses contemporains très colonialistes, justement ?
Il va très vite constater, lors de ses missions, l'érosion et la dépréciation, très important ça, des cultures locales, sous l'emprise des missions chrétiennes,
et oui,
j'insiste, et bien sûr de l'asservissement des peuples indigènes. Mmh. Alors c'est là-bas en Polynésie qu'il va écrire son premier roman qui s'appelle Les Immémoriaux. Alors c'est peut-être le premier roman ethnographique.
D'accord.
Alors ce roman, bah, il raconte la perte d'identité culturelle des Maoris,
ouais,
lors de la colonisation européenne à travers l'histoire d'un ancien prêtre indigène,
ah,
qui,
oui,
va abandonner ses rites ancestraux sous l'influence des missionnaires.
Forcément,
oui. Oui, et du monde occidental.
D'accord.
Alors Victor Segalen dénonce dans Les Immémoriaux la destruction des cultures orales et l'oubli des temps immémoriaux.
Mmh.
Alors il interroge la mémoire, hein, la transmission et l'impact du colonialisme sur les peuples autochtones.
Et
bah, ce livre, c'est un plaidoyer pour la reconnaissance des civilisations disparues.
D'accord.
Et une critique de l'ethnocentrisme occidental.
Mmh.
Et bien sûr, bah, le monde littéraire de l'époque va le prendre pour un fou, le traitant de romantique échevelé.
Forcément.
Alors, d'autant plus que Les Immémoriaux avaient une originalité, c'était pas du tout dans le style de l'époque.
Ouais.
Il avait une structure narrative inversée, c'est-à-dire que c'est l'homme primitif, entre guillemets,
oui,
polynésien, qui voit l'homme blanc comme étrange.
Ah oui, je suppose que ça a pu choquer à l'époque, effectivement.
Voilà.
Du coup, alors, comme on est à Asiologie, toujours,
oui,
hein,
oui,
c'est après la Polynésie qu'il va partir en Chine ?
Oui, il a commencé par la Polynésie,
ouais,
et puis il va effectuer plusieurs voyages après la Polynésie. Et d'abord en 1909 en tant que médecin de marine,
d'accord,
puis très vite avec l'école française d'Extrême-Orient.
Okay.
Il a commencé comme médecin, et après c'est avec l'école française d'Extrême-Orient qu'il va faire ses voyages et va s'orienter vers une mission plus personnelle,
mmh,
à savoir explorer les vestiges de la Chine impériale et étudier la sculpture funéraire.
Okay.
Les deux qui étaient très mal connus à l'époque en Europe. On connaissait très mal la Chine et,
ouais,
l'Extrême-Orient. Hein. Et sa recherche était à la fois esthétique et philosophique.
Mm-hmm.
Il voulait comprendre et ressentir l'exotisme au sens noble et vraiment rencontrer l'autre avec ses différences culturelles et spirituelles. Alors pour ça, pour partir en Chine, il va apprendre le chinois. Il va,
ouais,
étudier la culture, les rites, la calligraphie, l'architecture.
Eh bien.
Et ensuite, bah, ce sera la Chine qui va bien sûr lui faire écrire ses œuvres majeures.
D'accord. Mais alors, et ses œuvres, quel est le fil conducteur justement de son œuvre? Puis, quelle a été sa philosophie? Parce qu'on sent bien que c'en est rempli. Donc,
Oui. Alors, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt,
oui,
il avait deux thèmes majeurs, hein, deux concepts très originaux pour l'époque qu'il a développés au fil de son œuvre. C'est le divers, qui était pour lui la richesse des différences culturelles, et le divers qui s'oppose à l'uniformisation,
mmh,
et à la pensée unique, très important. Et Segalen voulait célébrer l'étrangeté du monde et expliquer la nécessité d'en préserver la pluralité dans un monde occidental, comme je le disais tout,
mmh,
à l'heure, ethnocentrique.
Bien sûr.
Alors il a écrit « Ce n'est pas en niant la différence que l'on crée l'égalité, mais en la reconnaissant. »
Pas mal.
Et il a écrit aussi « Le divers est la condition même de la beauté du monde ». Moi, je ne peux que partager ça. Je pense qu'on est beaucoup à partager ça.
Je crois, oui.
Hein, et son deuxième thème et concept, c'est l'autre, hein, avec un grand A,
ouais,
qui n'est surtout pas un objet de fascination folklorique, mais une présence humaine authentique qu'il qualifiait d'incroyablement différente. Ce sont ses mots.
Mmh.
Alors, il avait une perception lucide de l'altérité, sans volonté de la réduire ou de se l'approprier, parce qu'on parle aussi beaucoup d'appropriation culturelle. Lui, il ne voulait pas se l'approprier.
Mmh.
Il voyait l'autre comme un porteur de richesses culturelles qui nous oblige à repenser nos repères.
D'accord.
Alors, pour résumer, ben, je dirais que Segalen nous propose une philosophie du respect,
mmh,
une valeur humaine essentielle quand même,
oui, tout à fait,
bien loin, mais bien loin du repli identitaire. Et je dirais des replis identitaires.
Mmh.
D'aujourd'hui. Parce,
okay,
qu'aujourd'hui, il y en a des replis identitaires.
Ah bon?
Ouais.
C'était ça.
Alors, pour Segalen, bah, le voyage, c'était s'émerveiller devant un monde pluriel. Il était quand même bien en avance sur son temps. Bon, petite,
on
pause
dirait,
musicale,
okay,
chinoise,
oui, oui.
Didier.
Oui.
Alors, la traduction, c'est Love and Redemption.
D'accord.
On écoute ça. Mais je ne sais pas qui c'est.
Ah, et
j'ai pas réussi à lire.
Oui,
désolée.
Je ne peux pas t'aider non plus. Mais c'est pas grave.
On écoute quand
même.
On
va apprécier quand même.
命运在今生写下伏笔，梦境般与你不期相遇，你留下只在眼角标记，却忘记前世的约定，注定了结局看不穿天机，我们始终难逃脱宿命，隐藏在面具下的表情，你永远不懂得悲喜，找回你眼中失去颜色的风景，陪你看尽繁华如虚，花落荼蘼，解开你心
Alors, vous êtes toujours sur Radiologie, où la vitesse va très très vite, et donc on retrouve tout de suite notre philosophe, histoire de pouvoir exploiter tout ça, sans perdre de temps. Et moi, j'aimerais bien savoir quelles sont ses œuvres majeures, justement.
Oui, parce qu'il est un
quel
écrivain.
Quel livre que tu nous recommandes, du coup, parce que ça ne suffira pas, Radiologie, pour le découvrir, il faudra aller plus loin.
Il faudra aller plus loin, tout à fait. Alors, c'est difficile de choisir, mais je vais vous parler de trois livres essentiels. Alors d'abord, Stèle, qu'il a écrit en 1912.
Oui.
C'est un recueil de poèmes inspiré par la forme et le style des inscriptions chinoises sur la pierre.
D'accord.
Voilà. Et puis ensuite, je vous parlerai un peu de mon livre de chevet qui s'appelle Équipé, Voyage au pays du réel. Et je terminerai par son roman posthume, René Leys, qui explore le mystère de la cité interdite à travers le regard d'un Européen fasciné par la culture chinoise.
Bien.
Alors, je vais commencer par Stèle. Alors, c'est un recueil de poèmes en prose, inspiré des stèles chinoises gravées.
D'accord.
Et vous savez, c'était des pierres qui portent des inscriptions commémoratives, politiques, religieuses ou poétiques.
Oui.
On avait vu ça à la saison dernière, en parlant du musée des stèles, justement à Xi'an. Et chaque poème de Stèle est conçu comme une épitaphe qui évoque l'exil, la solitude, la mort, l'art et la beauté. En tout, il y a 53 poèmes, dont 53 stèles imaginaires.
D'accord.
Et voilà, donc ça parle du temps, du deuil, de la transmission.
Très bien. Et alors, bon, tu m'as parlé d'un livre de chevet, là. Tu as titillé ma curiosité.
Oui.
Raconte-moi un petit peu. Équipé, alors.
Oui, Équipé, Voyage au pays du réel. C'est déjà une invitation au voyage, quand même, moi,
c'est
je trouve,
clair.
Rien que le titre. Alors, c'est un long poème entre journal intime, récit de voyage et réflexion méditative qu'il a écrit en 1914. Alors, c'est une quête intérieure, je dirais, c'est autant une quête intérieure qu'un déplacement géographique. Il explore, en fait, la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre l'Occident et l'Orient, entre notre représentation d'un pays et la réalité qu'on va découvrir. Et ça,
d'accord.
On le vit. Chaque personne qui part en voyage, elle a cette confrontation-là.
Mmh.
Et alors, lui, il va y répondre d'une façon très poétique, avec l'histoire d'une pièce chinoise ancienne qu'on appelle sapèque. C'est les fameuses pièces de monnaie trouées d'un carré au centre.
Oui, ça me parle.
Bah oui, on en trouve beaucoup un peu partout.
Voilà, ouais.
Et c'est une pièce d'apparence banale, mais qui, sous sa plume, prend une valeur symbolique majeure. Il nous explique que le cercle représente l'univers, le ciel, l'harmonie cosmique, et que le carré central, c'est la Terre, le concret, le réel, la stabilité. Et
d'accord.
Pour lui, l'alliance du rond et du carré signifie l'union du visible et de l'invisible, du réel et du spirituel. Alors cette pièce, pour Ségalène, c'est l'image parfaite de la pensée chinoise.
Mmh.
Moi, je trouve ça quand même incroyable.
Mmh.
Donc, en fait, il n'y a pas de séparation entre l'abstraction et la matière, ni entre l'art et la vie, et encore moins entre le réel et l'imaginaire.
Eh bien.
Voilà. Et ça, c'est à l'opposé de la pensée occidentale qui analyse tout, qui dissèque et qui sépare. Voilà, et il a écrit « Cet objet, si modeste soit-il, condense plus de pensées que mille traités. »
Bien.
Voilà, c'est une petite pièce.
On va la voir autrement.
Voilà, on va la voir autrement. Bon, on en trouve partout en
Chine.
C'est
vrai. Oui, c'est ça.
Voilà. Et puis, Équipé, on le trouve pour moins de 10 euros. Il suffit de le commander chez libraire, il n'est pas forcément
rayon,
à disposition.
Mais...
Et puis des sapèques, on en trouve en France, sous forme de bijoux le plus souvent.
C'est ça, ce que j'allais dire. Ah. Ok. Alors, il était presque à la fin de sa vie en 14, du coup.
Oui.
Et que nous raconte son dernier roman, alors ?
Alors, c'est René Leys, son dernier roman, ouais. paru après sa mort. Ouais. Et c'est aussi sous la forme d'un journal. Alors, c'est aussi une forme un petit peu originale. Ça nous parle d'un occidental fasciné par la Chine impériale oui. qui va s'installer à Pékin pour chercher à percer le mystère de la cité interdite. Rien que ça. Ouais. Et il va rencontrer cet occidental, René Leys, un jeune homme énigmatique qui prétend être initié au secret du palais impérial. Et au fil du récit, le doute s'installe. Est-ce que René dit la vérité ou pas ? Est-ce qu'il invente ? Donc ce roman, c'est comme une enquête, c'est une réflexion profonde sur le désir d'exotisme. Et on le trouve partout en folio.
Ah, ok. Et alors, la fin de vie de Victor Sagalen, ça s'est passé comment ?
Il est rentré en France en 1915 avec un état de santé très détérioré. Il avait la tuberculose. Ah. Et de 1915 à 1919, l'année de sa mort, il va mener une vie retirée, incomprise du monde littéraire français. Et il va alterner ses séjours à l'hôpital et son travail d'écriture. Mmh. Et le 21 mai 1919, il va être retrouvé mort, noyé dans une rivière au fond d'un ravin de la forêt de Helgoland. Ah. Et tout près de chez lui, en fait.
D'accord.
Alors, on ne connaît pas vraiment la cause de la chute, accident ou suicide, parce qu'il souffrait aussi de dépression depuis très longtemps.
D'accord.
Et après sa mort, ses manuscrits, notes et carnets ont été édités, mais son œuvre connaîtra une reconnaissance seulement à partir des années 50.
D'accord.
Alors, il a inspiré André Breton, Michel Léris, Claude Lévi-Strauss, Marguerite Yourcenar, quand même.
Du beau monde,
et aussi Édouard Glissant, qui est poète et philosophe martiniquais.
D'accord.
Et aujourd'hui, l'œuvre de Victor Ségalen est étudiée dans les universités et son œuvre est régulièrement rééditée, car considérée comme visionnaire. C'est pour ça que je vous recommande particulièrement.
Oui, tu as aiguisé notre curiosité.
C'est ça. Et l'Université de Bordeaux, la Faculté de Lettres de Brest, le Lycée français de Hong Kong portent son nom, Victor Ségalen.
Tout de même.
Et on peut voir une plaque commémorative à l'endroit de sa mort dans la forêt de Huelguat.
Ah, je suis passé à côté.
T'es passé à côté, faut que tu y retournes,
voilà.
Didier.
Très belle forêt, j'irai avec plaisir.
Bon, on va changer tout à fait d'ambiance.
C'est ça,
tu nous as choisi une chanson qui va avec le thé.
Voilà.
C'est The Tea Song et c'est by Yorkshire Tea, c'est ça,
c'est une marque qui a fait une petite chanson. Enfin, je vous laisse découvrir.
On écoute la chanson du thé Yorkshire.
A graze or minor injury, there's tea, there's tea. You took an arrow to the knee, have tea. Oh, tea. Even winners of the Monaco Grand Prix drink tea. Heard it's drunk by the bourgeoisie. Probably likely change the course of history. Lovely cup of tea. When Monday leaves you feeling blue and your boss has a rage that you can't subdue, you likely see inside your bed. Put down your guns, use tea instead. Then use the cup to smash their heads.
Sarah, can we just talk? Sarah.
Your legs trapped underneath debris. There's tea. There's tea. You feel a burning when you pee. Have tea.
C'était la chanson Yorkshire Tea.
C'est ça. Voilà.
C'était rigolo, Didier.
Oui,
merci.
C'est drôle, c'est une petite.
C'est une chanson en anglais, ça change du
chinois. Oui, voilà, ça nous change d'habitude.
Oui, mais bon, le thé, c'est vrai que c'est une institution. Hein. Tu vas nous raconter tout
c'est
ça,
clair,
Didier.
C'est clair.
Voilà. Bon, c'est vrai que en lisant les poèmes de Victor Ségalen, j'y reviens. En buvant une tasse de thé, c'est
approprié.
Bien. C'est tout à fait approprié.
D'accord.
Bon, raconte-nous l'histoire du thé, Didier.
Alors, le thé, c'est une des boissons les plus anciennes et les plus populaires du monde aujourd'hui. Et son histoire, elle est riche, profondément liée à la culture, à la philosophie et à la société de plusieurs civilisations asiatiques. Son origine, elle est légendaire. Hein. Tout commence en Chine, il y a 5000 ans. Bah oui. Selon la légende, donc, l'empereur Sénong, réputé pour ses connaissances en herboristerie, aurait découvert le thé vers 2737 avant Jésus-Christ.
Donc, et c'était il y a longtemps.
C'est ça. Ça se passe comment ? Alors, une feuille de la plante camélia sinensis tombait dans son bol d'eau bouillante. morte. Elle a été, enfin, il a été intrigué par l'arôme, il a goûté, apprécié. Et c'est comme ça qu'est né le thé.
C'est toujours une histoire de hasard.
Voilà, c'est ça. C'est souvent
enfin, c'est
ça
souvent.
En cuisine. Hein.
C'est vrai. Alors, on le buvait pour quelle occasion au début?
Alors, le thé, au début. Ça a été une boisson en fait médicinale. Hein. Comme souvent, lors des premières dynasties, il était consommé sous forme de décoction à base de feuilles séchées et pilées. Il était considéré comme un purifiant, un détoxifiant. On pensait qu'il aidait à nettoyer les 5 organes internes, le foie, le cœur, la rate, le poumon et les reins.
C'est bon pour la santé.
Voilà. Mmh. Il était aussi reconnu pour réveiller l'esprit et aiguiser les sens en douceur.
Oui, contrairement à d'autres substances.
Voilà. Mmh. Les érudits, les médecins, les moines en buvaient pour rester éveillés et concentrés. On le buvait aussi pour faciliter la digestion et prévenir les ballonnements ou les indigestions. Toujours selon la médecine traditionnelle chinoise, le thé avait des propriétés refroidissantes. En fait, il était donc utilisé pour calmer des états de fièvre ou d'inflammation. Ah, il servait aussi de diurétique pour favoriser la miction. Puis, autre chose intéressante, il était recommandé d'en boire pour dissiper les effets de l'alcool.
Oui, ben ça c'est vrai que le thé, c'est pour ça qu'il y a tant de succès
cette boisson. Alors, ce n'est qu'à partir en fait de la dynastie Tang, au 7e siècle, que le thé est devenu une boisson populaire qu'on consommait pour le plaisir et lors de cérémonies. Et alors, c'est à cette époque que Lu Yu va écrire le célèbre ouvrage, le classique du thé, qui est le premier traité connu sur le thé. Les premiers thés étaient probablement verts ou semi-fermentés. Le thé noir, très courant en Occident aujourd'hui, il s'est développé plus tard en fait pour des raisons de conservation et de transport.
D'accord, oui, c'est comme ça que le thé noir est
voilà,
né. En fait,
ça.
Au début, c'était surtout
c'était
du thé
pratique,
vert.
En fait.
C'était pratique.
C'est ça.
Alors, comment et quand s'est-il diffusé en Asie, Didier, le thé?
Alors, le thé est devenu très vite une philosophie, un art pour acquérir au Xe siècle un statut culturel majeur avec l'apparition de rituels raffinés. Le thé était alors vu comme un symbole d'harmonie, de tranquillité et d'équilibre, intégrant des valeurs confucéennes et taoïstes.
D'accord.
Le thé est arrivé au Japon donc au 9e siècle, grâce à des moines bouddhistes qui avaient amené avec eux des graines et la pratique du thé lors de leur voyage en Chine. Puis, au fil des siècles, le Japon a développé son propre art du thé, centré sur la cérémonie du thé qui mêle esthétique, spiritualité zen et discipline.
Oui, ça c'est vraiment important,
oui. La
cérémonie du thé au Japon.
Ah, on le sait, oui. Ah.
Alors, quand est-ce qu'il a été introduit en Corée et dans le reste des pays d'Asie?
Alors, en Corée, c'est un petit peu plus tôt qu'au Japon, au 7e siècle. Il est
oui,
également,
c'était plus près.
C'est ça. Et également, par l'intermédiaire aussi, là encore, des moines bouddhistes coréens qui étudiaient en Chine.
Oui.
Mais le rituel du thé en Corée s'est développé différemment de celui du Japon. C'était beaucoup moins formel, sa consommation était liée à la pratique du bouddhisme avec une dimension plus méditative et contemplative. Le thé vert, est la principale variété consommée aujourd'hui en Corée et sa culture met l'accent sur l'harmonie avec la nature. Et dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, le thé a été adopté au fil des échanges commerciaux avec la Chine, bien sûr, pour devenir partie intégrante des coutumes locales, notamment au Vietnam.
Oui, Didier, pour revenir un peu sur la Corée, c'est vrai qu'il y a du thé en Corée, mais c'est difficile à trouver. Les Coréens boivent du thé, mais c'est assez confidentiel.
D'accord.
Quand même. Ils boivent beaucoup plus de café.
Oui, on en avait déjà parlé.
Voilà,
avec les petits bonbons,
on fera une émission
ça,
là-dessus. Voilà.
Voilà.
Mais le thé, il est excellent. C'est vraiment un super bon thé. J'ai eu l'occasion de le goûter.
D'accord. Alors maintenant, on prend la direction de l'Inde, qui est aujourd'hui grand producteur de thé. Le peuple ne consommait pas de thé. C'est avec l'arrivée des colons britanniques au 19e siècle qu'ils ont commencé à en boire. La culture du thé à grande échelle fut introduite en Inde pour l'exportation vers l'Europe. Cependant, les Indiens connaissaient déjà des infusions à base de plantes. Quant au Moyen-Orient, le thé il est arrivé de Chine par la fameuse route de la soie.
Ouais. Alors, quand est-ce qu'il est arrivé en Europe? Connaissait-on le thé avant les Anglais?
Il a fallu plusieurs siècles pour que le thé parvienne en Europe. C'est grâce aux échanges commerciaux entre les marchands portugais et hollandais l'Extrême-Orient que l'on va découvrir cette plante et la boisson qui en est tirée. Alors, les Portugais ont été les premiers à goûter du thé au Japon.
D'accord.
Le thé va arriver en Europe au début du XVIIe siècle avec les Hollandais qui vont l'importer en petite quantité pour des élites. Hein. C'était donc au début en fait une boisson coûteuse réservée à l'aristocratie et à la haute bourgeoisie.
On
consommait principalement pour ses vertus, là encore, médicinales, comme en Chine.
Mmh.
Alors, c'est par les grandes compagnies coloniales européennes, comme la compagnie anglaise des Indes orientales, que se fera l'importation massive du thé en Europe. Et c'est pendant le XVIIIe siècle que le thé va s'y démocratiser, progressivement pour s'imposer comme une boisson nationale en Angleterre.
Oui, ça s'imposait, la chanson en anglais.
C'est clair, voilà, c'est ça. Alors en France, il deviendra populaire au XVIIIe siècle grâce à la mode et à l'intérêt pour les cultures orientales, mais sa consommation reste toujours aujourd'hui moins répandue qu'en Angleterre, bien sûr. Il faudra plusieurs asiologies dédiées à cette boisson merveilleuse qu'est le thé, hein. Sinon on ne va pas y arriver à tout dire sur ça.
Mais oui, c'est vrai. Parce que la cérémonie du thé, il faudra un jour qu'on la détaille,
c'est
quand
ce
même,
que
et qu'on explique
ça. C'est un gros morceau qu'on ne pouvait pas intégrer aujourd'hui,
et
parce
exactement.
Que ça, une émission n'y suffisait pas, mais ce n'est pas grave. Voilà, rendez-vous dans une prochaine émission pour cette saison 3 qui commence tambour battant.
Oui, et nous, on ne termine jamais. C'est inépuisable, Asiologie.
Voilà. Il y a encore de quoi.
Bon, en tout cas, Asiologie, c'est fini,
c'est
les amis. On se retrouve jeudi prochain à la même heure.
Oui.
En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et bien sûr en podcast sur Radio Alpa. Et sur toutes les places mortes, les plateformes, c'est la
bien
rentrée,
mais on y est, on y est.
Et vous abonnez aussi à notre émission. Ah oui, j'ai pas dit, mais on est aussi rediffusé le samedi matin à 9h30 et le mercredi à midi.
Et oui, il y a deux rediffusions maintenant.
Voilà,
il n'y a plus possibilité de louper l'émission, c'est pas possible.
Non, voilà, faut pas louper
l'émission. De toute façon, sinon il y a le podcast et c'est pratique, on le consomme quand on veut, dans la voiture, partout. Voilà.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. Thank you.